Can we start the recording, please?
On démarre avec l'enregistrement. Merci. Bienvenue encore une fois. Bonjour à tous. C'est la première journée de la session de travail de leadership de la LAC. Nous avons eu un déjeuner très bref. C'est plutôt une marathon pour essayer de manger quelque chose. Nous vous demandons des excuses, vous, les participants à distance. Nous avons l'honneur de recevoir Marie Sorac, directrice senior du respect contractuel, et Pandéo nous accompagne aussi. Ils vont tous les deux répondre à nos questions concernant le respect. Il y a aussi une présentation sur l'écran, telle que vous le voyez. C'est Maggie va nous guider le long de cette présentation. Maggie, à toi. Bonjour à tous. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. Vous êtes de notre première présentation de la semaine. Dans la salle, je suis accompagnée par Olivier et nous avons aussi un nouveau membre de notre équipe qui nous accompagne depuis très peu, Jacques Wacha. Au téléphone, Khalil devrait être là. Rachid, avec qui vous avez travaillé certainement pendant les dernières années. Il y a aussi plusieurs membres de l'équipe qui participent parce que nous croyons qu'il s'agit d'un des forums critiques pour notre succès. Vous représentez un groupe de parties prenantes qui est essentiel pour notre mission et pour nos souhaits. Je vais vous raconter comment je vais faire la présentation. Il y a plusieurs mises à jour et aussi nous avons reçu des questions de sorte que, premièrement, je veux remercier la LAC de nous donner les questions très professionnellement et permettre d'avoir les diapos. Nous avons également une liste assez vaste de questions plaintes qui a été présentée. J'ai préparé un résumé pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. La diapo suivante, s'il vous plaît. C'est un peu loin, non? Vous le voyez? Les questions pour les présents sont ayant entré à l'organisation, pardon. Deuxièmement, les mises à jour dans notre site web, les notifications. Et troisièmement, il s'agit d'une catégorie de 177 questions qui ont été reçues et regroupées. C'est ce que l'on appelle un groupe de questions qui ont été présentées et qui ont trait aux mises à jour et aux notifications. Voilà la diapo numéro 4. La première question concernant le respect de l'organisation. J'ai le plaisir de vous informer qu'à ALAC, il y a 3 nouveaux membres de l'équipe, plus les membres de Dakar. 4 nouveaux membres. J'applaudis et je suis vraiment heureuse, hein. Si vous avez travaillé dans un groupe comme celui-ci, vous allez voir que le fait de trouver les capacités, c'est assez rare. Mais si vous avez travaillé au sein de l'ICANN, c'est 2 fois plus difficile parce que pour trouver le rôle, les capacités nécessaires pour pouvoir travailler dans cet environnement et aborder les préoccupations qui nous arrive, c'est difficile. L'Internet fait des progrès très rapides, donc le fait d'avoir 4 nouveaux membres, c'est très important. Et maintenant, nous pouvons couvrir 7 langues. Nous essayons encore d'augmenter l'équipe d'ici les prochains mois. Notre croissance est basée sur le volume des préoccupations au sein de la communauté et dans les différents domaines d'activité. Notre organisation, eh bien, je suis le chef de département et nous avons une équipe, l'équipe de respect des co-bureaux d'enregistrement et des co-registres. Ceci basé sur le volume, sur l'urgence et sur la demande. Nous avons aussi Jack, que l'on a présenté avant. Il a des années d'expérience pour ce qui est de la gestion et cela est très important. Nous voulons tous dire que nous faisons des audits. Nous nous demandons quels sont les risques que nous prenons et qu'est-ce que nous allons faire avec tout cela. Nous allons faire des mises à jour dans les prochains mois. Quelle est notre stratégie, etc. Mais l'important, c'est notre engagement pour conserver l'élan pour tous ces travaux. La quatrième catégorie est un monsieur qui s'appelle Paul. Et Paul a des années d'expérience, non seulement pour ce qui est de la gestion, dans les matrices, KPI ou ce que vous voudrez. Alors, aujourd'hui, je suis ici et je peux vous assurer que l'équipe est bien plus forte, bien plus capable qu'auparavant, quand j'ai commencé. Nous respectons de plus en plus toutes les sources et tous les travaux. Les ressources, elles seules, ne sont pas suffisantes. Il faut faire les mises à jour. La deuxième question a trait aux mises à jour. Si vous avez regardé notre page du respect, je ne sais pas ce que vous pouvez trouver, mais vous allez voir qu'il y a des informations importantes. Nous avons beaucoup travaillé pour que ceci soit plus convivial avec l'utilisateur. On peut faire cela sur la base, non seulement, c'est-à-dire, nous allons avoir une vision de la communauté, non seulement du staff. Voilà pourquoi j'ai ajouté, et si vous faites clic sur le lien, vous irez dans la page web du respect et vous aurez de plus en plus d'informations et de plus en plus d'engagement pour la mise à jour. Nous avons commencé à réaliser un bulletin d'information ou une newsletter. C'est des questions très, très courtes, hein, que l'on est en train de travailler là-dessus. Et nous voulons ajouter plus de données valides dans l'avenir. Pour la question numéro 3, nous allons voir la diapo numéro 6 et je passe la parole à Khalil, qui est le gérant senior du domaine de Juiz dans RP. Khalil est avec nous depuis plusieurs années. Il a travaillé au sein de la communauté. Il la connaît très bien. Donc, je lui passe la parole.
Bien, donc les questions de cet espace, Khalil est en mute. On se base sur les plaintes qu'on a reçues. On a 197 catégories de questions et donc nous avons certaines mises à jour. Il y en a parmi vous qui ont participé sur les séances avant de la réunion, mais on va repasser certains secteurs pour vous mettre à jour. Khalil? Allô? Oui, on t'entend. Vas-y, Khalil. Tu veux travailler depuis Costa Rica? Ce que je veux faire, en plus de traiter les plaintes particulières et les activités complémentaires de ce trimestre, serait de voir l'accès au nouveau IP. Ceci serait important pour voir ce qu'on a fait dans ce temps. Et donc, parmi les options qu'on a, on va voir si les gens sont en train de respecter les responsabilités pour voir si vous voyez le slide. On a 9000 et quelques plaintes. On a 6454 plaintes qui ont été répondues. On essaie de résoudre ceci sans interaction. Et donc, les plaintes vont être résolues dans des délais appropriés. Ça devrait fonctionner. Mais donc, quant aux plaintes, on n'a pas l'obligation de résoudre ceci. Dans certains cas, on ne peut pas le faire. Parce que dans notre système, ceci implique un choix de la personne qui présente la plainte. Pour la plupart du temps, vous n'aurez pas une réponse du bureau d'enregistrement par rapport à ces plaintes. Cela ne veut pas dire que le bureau d'enregistrement n'est pas responsable et qu'il ne doit pas le résoudre. En plus, En ce moment, on est en train de générer un processus de données, WIS, et on est en train d'essayer de faire ceci plus efficient, plus efficace. On devrait savoir si les pas adéquats sont en train d'être suivis et non pas d'involuer simplement 25 ou 30%. On voudrait vous montrer depuis le début quels sont les pas qu'on suit pour montrer la procession de WIS. Je ne sais pas si on pourrait passer à la diapo suivante. On voit là-dessus le volume de bureaux d'enregistrement. Si on voulait voir quels sont les sujets systématiques quant à la mise en place de WIS, on va voir quels sont les bureaux d'enregistrement qui prennent les différentes places. Et c'est ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de voir où on a des problèmes systématiques avec le WIS, où ils sont systématisés et comment travailler de façon directe avec les bureaux d'enregistrement. Quant aux plaintes et à la location des gens, vous voyez que la plupart des plaintes sont en Amérique du Nord et en Europe. Et ceci ne me surprend pas parce qu'en fait, c'est là où on a plus de bureaux d'enregistrement pour les noms de domaine. Peut-être ceci ne reflète pas la procession des bureaux des registres pour WIS, mais on essaie de donner une alerte plus systématique et de voir comment on peut faire face à ceci depuis le début même. En plus, on devrait traiter le sujet de l'accès au WIS. On va passer à la diapo suivante. Et l'un des pas que les bureaux d'enregistrement doivent suivre est fournir accès aux données WIS de deux façons. L'une est à travers le port 43 et puis on a aussi l'accès à travers un site interactif. On essaie de déterminer si les bureaux d'enregistrement ont accès à ceci ou pas et on va essayer de le faire d'une façon plus efficace. En 2009, notre système a commencé à recevoir des services des bureaux d'enregistrement WIS tous les jours. Et nous avons encore une fois des problèmes avec les bureaux d'enregistrement. Si vous voyez le dernier trimestre, vous allez voir qu'on a 29 cas de bureaux d'enregistrement qui semblaient ne pas fournir accès à ce port 43. Et à ces problèmes de port 43. Et donc, on a mis en place un processus pour établir cette détermination. On a reçu donc une notification sur les données WIS qui ne fonctionnent pas. Parfois, on avait aussi des problèmes de trafic. Et sur 29 cas, on en a déterminé qu'on avait des raisons pour avoir des raisons de respect. 7 n'étaient pas involuées. 29 n'ont pas suivi le processus pour rendre ceci plus efficace. Et donc, on a toujours des problèmes sur lesquels on travaille avec les bureaux d'enregistrement. Et ce qui nous épate est la façon dont les bureaux d'enregistrement ont fourni accès aux données WIS pour cette zone en particulier. Vous voyez ici sur cette diapo pourquoi les bureaux d'enregistrement semblent être en train de fournir les données WIS et en fait ils le font déjà. On a plusieurs raisons pour lesquelles on ne doit pas s'involuer nécessairement lorsqu'un bureau d'enregistrement semble ne pas être en train de fournir les données WIS. Nous avons aussi un respect du UDRP et il s'agit ici d'un processus avec lequel tout le monde devrait respecter quant aux marques. On a des détracteurs qui ont violé la marque ou le nom de domaine et alors le bureau d'enregistrement doit décider de transférer le registre à la personne qui a enregistré la marque ou de lui passer le domaine. Nous avons certains cas où la personne qui présente la plainte a des mesures qui n'ont pas été mises en place par le bureau d'enregistrement. Le processus d'ICANN verse plutôt sur les pas à suivre pour mettre en place la décision ou alors la rejeter. Depuis que j'ai rejoint l'ICANN, on a aussi vu des problèmes du non-respect de l'UDRP et on a eu, je crois, 15 cas lors du dernier trimestre. La plupart a été résolue au début du processus et le bureau d'enregistrement a mis en place les décisions prises. On a aussi un problème de l'UDRP 4K où on a répondu à chaque fois qu'il y a eu un manque de respect en ce cas par rapport au processus. Et selon le processus UDRP, on a le un cas qui nous a aidés. Et on a alors plus de problèmes de respect. On considère aussi qu'il y a eu des plaintes de UDRP sur un système de tickets généraux. Surtout pour ce qui est des responsabilités de l'ICANN. En fait, notre respect du DRP est limité parce que les bureaux d'enregistrement ne mettent pas en place les décisions et ne respectent pas le processus. L'ICANN n'assure pas particulièrement de s'involuer lorsqu'on viole des marques. Ayant dit ceci, je voudrais maintenant traiter un autre sujet. On pourra ouvrir donc la séance des questions. Et je voudrais parler des séances d'enregistrement des sites web. Pour les RAA de 2001 à 2009, les bureaux d'enregistrement devaient accréditer les noms actifs pour un site web interactif, mais ils ne peuvent pas déléguer ceci aux personnes qu'ils embauchent. Et donc, un bureau d'enregistrement doit fournir les données WHOIS pour pouvoir suivre le processus. Et donc, les bureaux d'enregistrement devaient fournir une adresse postale et une adresse web sur le site. Et donc, on devrait voir quels sont les cas d'accréditation pour pouvoir suivre le processus des sites web. Ceci dit, si vous avez des questions, Jonathan, dans la salle. Khalil, on voudrait donc laisser les questions pour la fin de la séance plutôt. Et si on continue avec la mise à jour sur la séance précédente pour vous informer des activités, on a déjà mentionné les ressources additionnelles que l'on voit maintenant sur la diapo numéro 13 sur l'écran. Vous avez déjà vu cette diapo, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que communauté? Je ne parle pas de l'équipe ICANN, mais plutôt de la communauté. En fait, on essaie de mettre en place la structure de respect pour tous. On est tous importants dans cette culture de respect du processus et nous en sommes dans la phase de l'auto-évaluation. C'est-à-dire, on est sur la base des obligations des parties contractantes et on a donc créé un questionnaire pilote. Pour les bureaux d'enregistrement, on est en train de travailler avec les registres en ce moment et on espère pouvoir apprendre beaucoup à partir de ce questionnaire. Il s'agit d'un outil. Tout le monde doit tout comprendre, tout doit être clair et on conçoit ceci du point de vue du respect. On devrait voir quelle est la consistance, qu'est-ce qui est valable pour nous et donc tout ceci va appartenir à la catégorie du risque. D'Audi, et on essaie de créer un pilote avec ceci dès maintenant pour le trimestre avant la réunion de juin et on espère avoir un compte rendu pour vous lors de la réunion de juin pour voir quels sont les pas qu'on va suivre pour cette fonction. Dans la diapo numéro 14, encore une fois, vous voyez que les ressources veulent dire beaucoup de choses, des gens, des systèmes, des ressources, des outils. Et je suis fière de pouvoir vous dire que le long de cette semaine, nos présentations vont montrer qu'on est parvenu à mettre en place tous ces processus le long des domaines de respect. Si vous connaissez le map, la carte des processus, on ne dirait pas qu'il s'agit d'une ligne droite, mais voilà le processus de respect total. Mais si vous voyez les parties contractantes qu'on est en train d'observer, les définitions de ce qu'on voit, indépendamment de ceci, le processus sera toujours le même. On a reçu un outil à travers ce système. Ce pourrait être les emails, les appels, n'importe quel outil que ce soit. On pourra avoir une consultation de respect qui sera envoyée. Et donc, ceci sera la phase préventive, c'est-à-dire les contrôles, les suivis, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, les audits, si ceci respecte les obligations et le processus, c'est-à-dire c'est un processus en trois étapes. D'abord, on devra envoyer une notification, voir si ceci est clair ou pas. Si ce n'est pas clair, on envoie une consultation pour voir les épreuves et puis on continue. Mais en fait, ces trois pas, ces trois étapes sont définies partout. Elles ont été définies par les parties contractées. On aura envoyé un email et si on n'a pas une réponse valable, on va faire un suivi dans ce marque temporel sur la base des difficultés dans les domaines où on travaille. On fait un suivi aussi à travers un email ou par téléphone et on ne veut pas que ceci soit sous-entendu. Si on n'a pas eu assez de réponses à ce moment donné, on va envoyer un fax. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs façons de traiter les ou de contacter les parties contractées. Et si, quand on a envoyé la troisième notification, on n'a toujours pas de nouvelles, on va le diviser en deux jours de travail. Et donc, l'équipe a le défi, a relevé le défi de voir comment on peut faire que ce point-là se transforme en un manque de respect du processus et notre engagement avec la communauté. Voilà une des questions qui a apparu et de publier sur le site web ce qui se passe. Mais c'est différent de se maintenir à jour. Donc, on devrait voir quelles ressources vont nous servir pour le maintenir ainsi. Ceci porte donc sur le respect. Dès qu'on a envoyé une notification de respect et la période est déjà passée, on ne peut pas arranger ce processus de conformité et on a donc développé un processus qui profite des RAA de 2009 et on y a inclus un processus de suspens. Et on a un bureau d'enregistrement aujourd'hui qui a été suspendu et il a un délai spécifique pour pouvoir résoudre ce manque de conformité. L'idée de ce processus est que le domaine d'où on vient ou qui est la partie contractée qui fait le suivi ou le but n'importe pas. Notre but est de standardiser toutes les communications, toutes les bases, tout ce qui porte sur qu'on demande. Avant de passer à la diapo suivante, ce processus amélioré sera effectif à partir des réunions suivantes où on commencera à nous rapporter à vous. Et comme Khalil a dit, on va demander plus de données, plus de faits. On va voir si ceci est efficace et on se demande combien de fois on va re-regarder ceci avant de prendre des décisions sur cette base. On va toujours voir la ligne du haut et essayer de communiquer, informer la communauté en ce sens. Bien, donc je voudrais maintenant que la communauté nous dise comment il serait important pour le développement de processus et le développement de politique. Puisque vous avez tous participé de ce processus de développement de politique, on devrait voir comment mettre en place ou faire respecter ces politiques. Donc, c'est un cercle complet et on est engagé avec le processus de développement de politique en même temps. Et par exemple, vous pourrez avoir vu le IIRTP, comme groupe de travail qui a beaucoup travaillé pour mettre en place toutes ces recommandations et toutes ces modifications. À partir de juin, le 1er juin 2012, c'est-à-dire en 3 mois, et on a été engagé dans ce processus. On leur a donné des données de plainte au groupe de travail et pour qu'ils sachent où sont les problèmes, ceux qui implique même faire des commentaires sur les modifications politiques. Et donc ceci, comme je viens de dire, est la fin du cycle de la politique. Donc on est engagé avec le développement de politiques, les modifications nécessaires et puis les faire respecter. Vous voyez qu'on a plusieurs groupes de travail pour les versions préliminaires. Vous allez suivre ce travail, je sais, parce que il s'agit ici des recommandations qui viennent du groupe de travail sur les politiques du stage frauduleux ou abus. Et donc, l'équipe qui allait rédiger l'équipe préliminaire allait traiter ce sujet. Et on a beaucoup travaillé avec l'équipe de version préliminaire. On leur a fourni des questions, des informations pour les options qu'ils avaient proposées et on a même recommandé d'autres options qu'ils n'avaient pas pensé, auxquelles ils n'avaient pas pensé. Puis on avait la réponse au groupe de travail et les recommandations du RAP, du groupe de travail RAP, qui rapporte toutes les modifications. Je pense que ce groupe identifie les différentes communautés. Ils ont de différentes méthodologies pour faire des abus. Et donc, ils doivent chercher à harmoniser le processus dans ce domaine. Ils ont demandé des informations de la part de l'équipe de complainte pour savoir comment cette équipe suit et rapporte les abus et l'usage frauduleux. Donc, voilà quelques exemples pour vous montrer qu'on est engagé non seulement avec le respect des politiques, mais aussi avec le processus de développement de politiques. Sur la diapo suivante, montre à la communauté quelles sont la conformité de registres et les ubications, les locations des registres et des bureaux d'enregistrement en Amérique du Nord. On a une en Asie, 10 en Amérique du Nord, et on a un besoin de recevoir des rapports tous les mois. Et à partir de ces rapports, on voit que dans ces parties du monde, tout le monde respecte la disponibilité WIS, la disponibilité DNS, et ils fournissent accès égalitaire au bureau d'enregistrement, au système d'enregistrement partagé. On n'a pas reçu des plaintes à partir de novembre 2007, et donc on n'a pas de problème pour ce qui est du refus de ce service. Sur cette diapo, on voit les locations géographiques des plaintes reçues. Et donc, entre octobre 2011 et février 2012, on a reçu 16 741 plaintes. Il y a eu quelques-unes qu'on n'a pas pu confirmer pour leur emplacement. Et donc, pour les bureaux d'enregistrement emplacés dans cet emplacement géographique ou dans cette région. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ceci vous donne un panorama des différents types de plaintes qu'on reçoit. Voilà les plus grands groupes des plaintes qu'on reçoit. La plupart des plaintes porte sur le manque de précision pour WHOIS, mais on voit aussi les problèmes de service aux clients qui sont enregistrés. Ces plaintes, pour la plupart, ne peuvent pas être traitées, mais comme vous voyez, sur 4000 plaintes, on a plus de 4000 plaintes sur ce sujet. Puis on a des problèmes de transfert, et comme vous savez, on a passé beaucoup de temps à essayer de traiter ce sujet. On a d'autres sujets tels que l'escroc de données et quant à aux audits ou qu'ils manquent. Et donc, pour les plaintes des différentes régions, peut-être que ceci n'est pas conforme à ce que l'on demande, mais on devrait vous présenter ces trois grands groupes et on voit des problèmes potentiels pour les plaintes. On enverra la première notification au bureau d'enregistrement et puis on passera à la première et deuxième et troisième étape. Mais ceci ne fonctionne pas. On a un autre processus pour de l'étape préventive à l'étape de respect, pour que la partie contractée doive adresser ceci. On voit deux qui ont surpassé donc le respect et on a une suspension. On n'a pas fini avec ce contrat. Ici, vous voyez donc les données sur la démographie des bureaux d'enregistrement par rapport aux plaintes et au volume et aux bureaux d'enregistrement. Sur cette carte, vous voyez que pour Amérique du Nord, on a 95 600 000 bureau d'enregistrement et ils ont reçu 393 plaintes, 3939 plaintes, et vous voyez qu'il y a 683 bureaux d'enregistrement dans la région. On a 117 plaintes sur ces bureaux d'enregistrement. Donc, à partir des pourcentages, vous voyez la tendance où on a les plaintes des consommateurs ou des registrants. Et Meggy a déjà mentionné ceci. On essaie d'être plus créatif et de faire ceci de façon plus intelligente pour identifier les domaines ou les régions de problèmes de façon plus efficace. Diapo suivante. C'est encore une fois ce qu'on a déjà mentionné. J'ai déjà parlé des tendances et pour les transferts, c'était l'un des sujets sur lesquels on reçoit le plus de plaintes. Et donc, si on a toutes les plaintes pour T2 avec les bureaux d'enregistrement, les 5 bureaux d'enregistrement les plus importants, on sait qui ils sont, où ils sont. Et on fait ceci pour traiter le problème de façon plus efficace. Dans notre jargon, on sait que c'est le plus grand problème qu'on a. Et donc, s'il traite le problème des transferts et comment il les adresse, comment il les traite, on pourrait réduire la quantité de plaintes et on espère que le consommateur ou l'utilisateur ait une meilleure expérience. C'est ce qu'on est en train de faire en termes de transferts. Sur la diapo suivante, on a les volumes des plaintes de WIS. On identifie encore une fois qui sont les 10 principaux bureaux d'enregistrement pour ce qui est des plaintes. Donc, vous voyez ici les bureaux d'enregistrement. On a pour le T2, il y en a qui ont reçu plus de 1200 plaintes pour celui qui a peu reçu. Et donc, on est en train de travailler sur ceci pour identifier les causes principales et pour pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est le principal travail qu'on est en train de faire et on essaie de le rendre plus efficace. Je passe maintenant la parole donc à l'audience pour les questions. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent déjà. On va commencer avec Bo, puis Holly, puis Evan et en dernier, Garth. So, alors, Bo, Xiao, il faut que tu te montres plus enthousiaste pour qu'on te passe la parole. Vas-y, Bo. J'ai 3 questions et j'essaierai d'être brève. Et en premier, est-ce que vous conservez l'historique? Est-ce que vous vous en servez? Quel est le patron que vous pouvez faire ici? Je suppose qu'il s'agit ici du tableau sur lequel on avait couvert avec un carré jaune. Oui, voilà. Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez enlever le carreau jaune dans le dessus du tableau? Non, on ne peut pas parce qu'on a déjà partagé avec vous le processus de domaine. La communication avec le public n'est pas active à moins qu'il soit nécessaire. Mais pour répondre à ta question précédente, comme j'ai déjà dit avec les autres membres de l'équipe, on a des historiques et on les regarde, oui. D'accord, j'ai une autre question. Je vois que ce que vous essayez de faire ici est très semblable à ce que fait le Bureau des affaires des États-Unis et comment ils gèrent les plaintes et comment ils les analysent et ils travaillent dessus. Est-ce que vous faites ceci ou alors est-ce que vous registrez des numéros, des chiffres? On parlait des données que vous recevez et que vous réunissez, mais je n'ai pas entendu dire qu'est-ce que vous allez faire avec ceci. Donc, si vous pouvez nous aider ou suggérer une façon de recevoir des informations, il paraît qu'ici, on a une liste des 10 bureaux d'enregistrement principaux pour les plaintes. Ceci devrait être disponible pour le public, si ce ne l'est pas. Ce devrait être disponible dès maintenant. OK, alors je vais répondre à la première partie de ta question. Bo, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? On inclut l'objectif et le but de ce qu'on fait avec les données. On l'amène directement à la partie contractée. on traite les raisons principales, et que ce soit formation ou alors si c'est un comportement de non-conformité, on traite le problème et on va essayer d'arriver à la phase de respect. Donc, dans le passé, auparavant, on adressait le volume. Maintenant, on essaie de voir quelle est la cause. Merci. On a Holly maintenant. Holly dit, bon, j'ai deux questions. En premier, je voudrais une précision de ce que vous avez dit sur les sanctions qui commencent avec la suspension et peut-être même la finalisation du contrat. Et pour moi, ce n'est pas clair si cette sanction, telle que la suspension, pour donner quiz qui ne sont pas précises et sont spécifiées sur le RAA. Puis, je ne sais pas quel est votre processus pour la gestion de plaintes. Comment les gens voudraient savoir comment vous présentez la plainte? Est-ce que ça se fait directement auprès de vous? Ou alors, comment est-ce que les plaintes vous parviennent? Est-ce que les plaintes sont présentées au bureau d'enregistrement et c'est ça que vous réunissez? Ou alors, est-ce que les plaintes passent directement à ICANN? Bien, Holly, je vais répondre à ta première question. Sur ma diapo 14, vous voyez que les plaintes nous arrivent de différentes façons. Normalement, on a trois systèmes que les gens connaissent aujourd'hui, qu'on appelle le ticket C, le C-ticket. On a le ticket W et le UDRP. Et chacun sert à un propos différent. Puis on reçoit des emails ou des appels aussi. C'est pour ça qu'on les appelle et qu'on reçoit les appels en même temps. Parce que ce n'était pas une question qu'on nous a fait, nous, mais on essaie de répondre à ceci dans ce forum. On a des plans pour la consolidation du système de plainte pour avoir un outil lorsqu'on en aura besoin. Pour ce qui est de processus de conformité, le processus de suspension porte sur une petite notification et Pam va vous dire ceci en plus de détails. Holly, si j'ai bien compris votre question, vous demandiez sur l'imprécision des obligations WIS, ce qui nous mènerait sur une suspension comme punition. Comme vous voyez sur ce schéma, ce n'est pas tout ce qui est le manque de conformité suit un processus, que ce soit le système de rapport pour les données. Tout ceci suit un processus et on passe par les trois étapes de notification qui sont la première, deuxième et troisième notification. Pour ce qui est de la plainte de manque de précision des données WHOIS, tout le monde doit suivre ses pas pour qu'on puisse investiguer ceci, pour suivre les pas raisonnables, pour pouvoir enquêter sur ceci. S'ils peuvent démontrer ceci, on va suivre avec une notification de manque ou de... Et alors, on passera de ce processus si on a une infraction. Le problème n'est pas l'imprécision, mais plutôt comment le bureau d'enregistrement suit les pas raisonnables. Et voilà la question qu'on vous demandait. Et donc, s'ils ne le font pas... C'est voilà pourquoi on a un problème avec le RA en ce moment. Mais donc voilà, le processus, c'est ce qu'on vient de décrire. En ce moment, on est en train de réviser le processus de suivi de manque de conformité. On sentait que ce processus était trop long. Et donc en ce moment, on est en train d'essayer de raccourcir ce processus. Et un autre pas très important qu'on essaie de suivre et de changer en fait... Et que lorsqu'on fait, on envoie une première notification au bureau d'enregistrement, on demande des preuves. En ce moment, on ne nous dit pas quoi on devrait faire. Et on fait référence au contrat. C'est le RAA, l'accord. L'obligation de retention de données du bureau d'enregistrement. Et donc, ces données vont être passées à ICANN s'ils le demandaient. On a vu sur la première notification, on va leur demander de ne pas nous rendre des preuves. Et donc, sur ces dispositions, on va voir où l'inconformité, où l'imprécision est. Donc, on va essayer de améliorer le système pour nous rassurer que ce processus est plus efficace. Bien, donc on a une queue à suivre. On a Evan en premier lieu. Bonjour, c'est Evan Lebovitch pour le procès-verbal. J'ai une question de clarté, de transparence et de précision. Ma première question porte sur la diapo numéro 10. Vous avez des chiffres dessus. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour le 15 que vous avez inclus là-dessus et qu'est-ce que 205. Je voudrais interrompre et répondre à ceci, dit Khalil. Bien, le 16 sont les plaintes reçues à travers les candidatures pour ceux qui n'ont pas mis en place les décisions UDRP. On a aussi un système de plaintes générales où les gens peuvent se plaindre de n'importe quoi et on a reçu plus de 205 plaintes sur les décisions UDRP, le manque de mise en place. En fait, la plupart, ou 95% d'ici, de ces plaintes ne portaient pas sur la conformité. Et donc, voilà pourquoi on ne les a pas incluses dans le graphique. Mais pour ce qui est des décisions UDRP, on adresse donc le manque d'implémentation dans le contrat, même si ces plaintes, en général, sont incluses dans un autre système. Est-ce que ceci précise ta question? Bien sûr. Donc, ceci, alors, me mène à la page numéro 10, donc la diapo numéro 6, plutôt, sur les plaintes de manque de clarté. Et ma question porte sur le 4% d'invalidité que vous avez mentionné. Ceci me gêne un peu parce que ça me dit pas sur quoi ça porte, mais si c'est pas pertinent, s'il s'agissait de problèmes techniques. 24%, en fait, c'est un numéro assez haut de plaintes pour les rejeter. Je voudrais savoir plus clairement ce que ceci signifie et pourquoi vous dites que c'est invalide. Quelles sont les raisons pour lesquelles une plainte est rejetée comme invalide? On a plusieurs raisons. D'une part, dans notre système, lorsqu'on reçoit une plainte d'invalidité, on doit confirmer la plainte dans un délai spécifique de temps. Si on manque de faire ceci, la plainte est rejetée comme invalide. Sur le RA, on a aussi plusieurs catégories où les données peuvent être disponibles pour le public. Et parfois, le manque d'informations précises que l'on rapporte parfois n'est pas demandé par le RAA. On a aussi une catégorie de plaintes de manque de précision présentée où ce n'est pas en fait le cas, mais il s'agit d'un problème avec le site web, mais ce n'est pas un problème de manque de précision dans le contrat ou selon le contrat. Le contrat, en fait, doit réguler tout ce que l'on fait. Et lorsqu'on ne mentionne pas les irrégularités des données WHOIS, on doit le rejeter. Bien, alors je suggère d'améliorer ceci parce que c'est important pour la communauté de savoir si leurs plaintes, qui peuvent être valables pour la communauté, mais peut-être ne sont pas dans la portée de ce que vous faites, c'est peut-être quelque chose que ICANN devrait traiter. Peut-être ce n'est pas à vous de le traiter, mais l'ICANN devrait le considérer, on devrait le savoir. Je te remercie de tes commentaires. Et sur ces diapos, on a aussi inclus une adresse email où les gens qui pourraient avoir d'autres commentaires et qui ne les font pas maintenant peuvent nous envoyer leurs commentaires ou leurs contributions d'idées pour l'amélioration de ce processus. Cette adresse email pourrait être mentionnée encore une fois à la fin, si vous voulez. Merci. Bien, Devan, et ma dernière question porte sur la diapo 16 où vous aviez la diapo numéro 14, sur le processus de conformité générale. Et je pense que si on a 5 étapes, etc., lorsqu'on voit les schémas avec les petites boîtes jaunes, les carreaux jaunes, où on ne voit pas qui est le bureau d'enregistrement, vous nous dites aussi. Il faudrait que vous nous disiez aussi à quelle étape il se trouve. Ce n'est pas suffisant de dire « on ne peut rien vous dire ». Au moins, on devrait savoir aussi où vous en êtes avec chacun de ces bureaux d'enregistrement. Est-ce que vous venez de découvrir ceci? Est-ce que vous travaillez dessus depuis 5 ans? C'est important pour nous de savoir où vous vous en trouvez dans le processus. Et ceci devrait fonctionner bien pour ce qui est du processus et le système et la conformité. Ce serait bien pour la communauté de savoir s'il y a une plainte. Si vous allez couvrir les informations avec des carreaux jaunes, on devrait aussi être aussi clair que possible. Et finalement, je voudrais tout simplement être d'accord avec ce que Beau disait sur la responsabilité d'être transparent. Et franchement, je ne sais pas pourquoi il faut attendre jusqu'à l'infraction pour publier les données. Si ce serait pour le bénéfice des consommateurs de dire que quelqu'un a reçu beaucoup de plaintes, c'est peut-être pas une infraction. Mais ce n'est pas une opinion, c'est un fait que le bureau d'enregistrement a reçu des plaintes. Et je ne sais pas pourquoi vous ne pensez pas que ce serait pour le bénéfice de la plupart de savoir ceci au lieu d'avoir des carreaux jaunes sur les données. Bien, donc au fait, on essaie de montrer à quelle étape du processus nous nous trouvons. Mais notre idée est de considérer ceci comme un modèle qui s'autorégule. Tout le monde reconnaîtrait ceci, je crois. Mais c'est important pour les bureaux d'enregistrement de travailler avec nous, ou alors pour nous de travailler avec les bureaux d'enregistrement, parce que ça nous donne une occasion de résoudre les problèmes. Auparavant, comme j'ai dit, on a révisé les données pour suivre notre processus, mais on a beaucoup de cas où on n'a pas de communication de la part du bureau d'enregistrement ou alors du plaignant. On a tout simplement la plainte. S'ils disent qu'il y a une infraction ou un abus ou un usage frauduleux. Donc, on devrait permettre que l'autre part vienne nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, on n'a pas eu cette occasion. Et c'est pour ceci qu'on est en train de réviser le processus. Peut-être qu'on ne sait pas quelles sont les données dans le contrat et on voudrait pouvoir vous les fournir. Pour ce qui est des communications, il s'agit donc ici d'une infraction et donc on est en train de revoir le processus. Mais c'est pour avoir une meilleure collaboration qu'on croit qu'on ne devra pas révéler quelle est l'identité du bureau d'enregistrement qui suit ce processus de résolution préventive. Si la communauté ressent qu'on a une nécessité de traiter ceci, on devrait considérer la collaboration et viser à atteindre un meilleur résultat pour tous. Ma suggestion serait de considérer ceci et ce processus sans couvrir avec le carreau jaune comme un bénéfice pour tous. Ce serait bien de le savoir avant d'arriver à une infraction. Voilà, merci. Oui, par rapport au deuxième commentaire d'Evan, si on a une partie du processus de plainte qui est nécessaire ou que la communauté sent qu'il serait nécessaire, peut-être cette plainte ne doit pas être obligatoire, mais peut-être que les gens veulent rédiger une déclaration, mais donc on essaiera de résoudre ceci lorsqu'on en aura besoin. Je crois qu'on finira avec ce sujet ici parce que je pense qu'avec les questions qu'on vient de traiter, ces 3 questions, on a déjà passé 45 minutes. Donc, Garth, vas-y. Noralie, je m'excuse, tu as déjà eu tes 10 minutes de gloire.
Merci, Olivier. Je voudrais voir un petit peu de processus d'équipe dans ce domaine. J'ai 2 questions. La première, et j'attends la réponse et après je poserai la deuxième. J'ai une lettre du service de plainte d'ICANN de décembre 2010 et dans cette lettre, il est dit que ICANN va vérifier le site Internet des bureaux d'enregistrement et que cela appartient au système régulier. On va donc vérifier les sites. Et la nuit dernière, j'ai vu 10 registraires qui se sont accrédités récemment, qui n'ont pas eu le temps de donner des informations concernant leurs contacts sur leur site Internet. Et ma question est, est-ce que ce processus est vraiment en marche? Et comment est-ce que les bureaux d'enregistrement s'accréditent? Et ensuite, j'attendrai la réponse pour poser la deuxième question. Bien. Deux choses. L'équipe de conformité d'ICANN ne travaille pas avec les bureaux d'enregistrement. Donc, je ne suis pas très à l'aise dans ce domaine. En ce qui concerne les bureaux d'enregistrement qui ne donnent pas les données et qui ne respectent pas le RAA, lorsque nous voyons des plaintes de la membre de la communauté, nous écoutons ces plaintes parce que des fois, il y a des choses que nous n'avons pas vues. Donc, nous vous demandons de nous renvoyer ces informations parce que des fois, il y a des choses que nous ne voyons pas. D'accord, merci, je le ferai. Et c'est une. Je pensais que c'était un programme proactif. Hein. Ma deuxième question est, je voudrais des précisions sur toutes ces questions, parce que c'est la question la plus importante, ce qui va être la question la plus importante qui va être posée lors de cette conférence. Je vais la formuler très clairement. En ce qui concerne les le point 378 du RAA, est-ce qu'il y a une infraction du contrat du bureau d'enregistrement de ne pas d'enregistrer un domaine avec des données WHOIS fausses? Est-ce que ça ne respecte pas le processus? Est-ce que ça implique qu'on va faire une enquête, surtout? J'aimerais vous donner une réponse, oui ou non, mais je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas possible de faire une analyse de plainte de cette façon-là. Et il y a deux conseils nécessaires pour les problèmes de ce type. Hein, concernant l'exactitude des données WHOIS. Donc, hélas, il n'est pas possible de répondre à votre question. Le comité de conseil a indiqué que cela dépend du bureau d'enregistrement. Et ce n'est donc pas un prérequis ou quelque chose et qui pourrait être considéré comme une infraction et pour laquelle on pourrait faire un avis d'infraction. Mais je voudrais un peu plus de précision sur ce point-là. Merci. Merci. On passe maintenant à la personne suivante. S'il vous plaît, questions rapides et réponses rapides. Cheryl Langdonor. Je ne peux pas... Je peux vous dire que la question sera rapide, en tout cas. Pour la diapo qui est ici sur l'écran, la case rouge de suspension, je suis assez fanatique de suspension. Je pense que nous avons un mécanisme assez proactif pour s'occuper des questions de problèmes de CCTLD. Je voudrais vous demander cependant si... La suspension est quelque chose d'assez nouveau. Et que se passe-t-il en termes de protection des consommateurs et de bureaux d'enregistrement qui n'ont pas d'identité pendant cette période de suspension? Quel est le risque auquel nous nous exposons? Parce que c'est un modèle très intéressant. Mais j'ai peur quand même qu'il y ait des risques ici. Merci, c'est une bonne question, Cheryl. Avant donc la suspension ou juste après l'avis de suspension, nous publions un FAQ en expliquant de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que le bureau d'enregistrement a été suspendu. Et donc cette suspension implique deux interdictions. Le bureau d'enregistrement ne peut pas ajouter de nouveaux noms et ne peut pas faire de transfert. Donc, toutes les activités vont continuer quand même à exister. Hein. Donc, les registrants peuvent toujours transférer leurs noms. Et voilà, à part ces deux activités que je viens de nommer, que je viens de mentionner, tout le reste fonctionne normalement. Donc, les nouveaux et clients... ne seront pas affectés. Ils doivent publier sur leur site web qu'ils ne peuvent pas accepter de nouveaux noms sur leur site web. Hein, donc, c'est une espèce d'alerte pour ceux qui vont se rendre sur leur site. Ça veut dire qu'il y a une suspension qui est en cours et donc ils essayent de prendre des mesures. Hein, et à ce moment-là, on va publier cet avis sur leur site web, sur leur site Internet. Si vous voyez d'autres mesures que nous n'avons pas considérées et que nous devrions considérer, allez-y, faites-nous des suggestions, des recommandations, nous les considérerons avec plaisir. Cher Langdonan, c'est quelque chose que la communauté peut-être souhaiterait analyser et des points sur lesquels la communauté aimerait donner son point de vue. Le souci hein, est en 30 jours, une fois que la suspension est mise en place pour toutes les bonnes raisons. Le registrant veut partir, veut quitter cette partie suspendue et il ne peut rien faire pour empêcher la partie suspendue de rendre ce transfert très difficile. Donc, je crois qu'il faut faire très attention et les choses peuvent être et passer à d'autres organisations, des organisations sœurs. Hein, ce sont des choses que certains acteurs et mal intentionnés pourraient faire. Hein. Donc, ce sont des thèmes sur lesquels nous devrions nous pencher lors de la prochaine réunion. Nous avons 3 personnes encore dans la liste. Nous avons 5 minutes de plus. Une réponse très courte, une question très courte, s'il vous plaît. Shiva, vous avez la parole. Shiva Subramanian. Le nombre de plaintes et de problèmes de plaintes que ICANN reçoit, est-ce que c'est une indication réelle de l'ampleur réelle du nombre de plaintes des clients, de l'ampleur réelle des problèmes des consommateurs? Est-ce que ICANN peut permettre aux consommateurs de rentrer directement en contact avec ICANN en intégrant un EPA, un contact auprès du site du bureau d'enregistrement ou bien envoyer une plainte directement à l'ICANN hein, en disant que ces problèmes n'ont pas été résolus par le bureau d'enregistrement. Et ensuite, l'autre point, c'est que vous parliez de en cas de suspension. Et le bureau d'enregistrement est obligé de présenter un avis sur son site Internet. Mais la plupart des enregistrements ont été faits, non pas par le bureau d'enregistrement, mais par le revendeur. Donc, est-ce que vous faites aussi, est-ce que vous obligez aussi le revendeur à présenter cet avis sur son site Internet? Cet avis de suspension du bureau d'enregistrement? Non. ICANN n'a pas de contrat avec les revendeurs. Par conséquent, nous ne pouvons pas rendre obligatoire ce type d'avis pour les revendeurs. Mais vous pouvez obliger le bureau d'enregistrement à dire que ce bureau d'enregistrement et ses revendeurs tombent sous la... ont des problèmes avec ce RAA, non? Oui, parfois... Certains revendeurs ne sont pas vraiment concernés. Donc, actuellement, nous ne faisons pas cela. Dans le secteur des revendeurs, ça ne se fait pas, non? 2 questions de plus, une de Beau et une de Alan. Et ensuite, on s'arrête. Bien, je vais être aussi rapide que possible. Je voudrais dire d'abord que je pense que cette présentation était pas vraiment satisfaisante. Ma question est, en ce qui concerne le manque de précision des données WHOIS, on parle des documents, d'un document qui a 10 ans déjà. Donc, il faudrait regarder ce document en particulier, qui est peut-être un peu... qui date, disons, et qui est un peu obsolète. Oui, il y a 2 accords pour les bureaux d'enregistrement. Hein, un qui date de 2009, un qui date de 2010. Je sais qu'il y a différentes décisions d'ICANN pour aborder ce problème hein, avec les bureaux d'enregistrement. Merci, Khalil. Une dernière question, Alan. Merci. Ce ne sont pas des questions. En réalité, ce sont deux points que je voudrais, deux commentaires. Et un commentaire qui est apparu à mes yeux lorsque je travaillais sur le PDP. Je pense qu'il y a de bonnes raisons techniques pour lesquelles on peut faire cela. Et je voudrais donc répéter, hein, sur votre formulaire de plainte, vous avez une longue liste de plaintes, non? Le logiciel, le formulaire d'Internet ne te permet d'en sélectionner qu'un seul, hein, ce qui est un problème pour les statistiques. Parce que on peut des fois on ne peut pas choisir le problème que l'on a. Donc on a différents types de plaintes et on ne peut pas les caractériser. Donc on peut peut-être choisir parfois la mauvaise raison. Donc je pense qu'il faudrait voir comment on peut corriger ce problème. Je ne sais pas si c'est facile ou difficile, mais je pense qu'il faudrait le résoudre ce problème. Je ne vais pas dire que nous travaillons là-dessus, mais j'ai les détails, et sur les plans à venir pour résoudre ce problème. Bien, je continuerai à le dire jusqu'à ce que je vois que l'on a résolu ce problème. Bien, la prochaine réunion, nous verrons où nous en sommes dans ce processus. Bien. Alors, si vous avez d'autres questions à poser, d'autres commentaires, vous les envoyez par mail. Moi, j'ai quelque chose que je n'avais pas sur ma liste jusqu'à ce que Pam réponde à la question préalable. Et s'il vous plaît, ne dites jamais que nous n'avons pas de contrat avec les revendeurs alors qu'il y a. Je comprends votre problème avec les multiples bureaux d'enregistrement qui revendent d'autres à des revendeurs, mais nous n'avons pas des contrats avec les revendeurs. Nous avons des contrats avec les bureaux d'enregistrement et nous pouvons leur imposer de faire certaines choses. Hein? Donc, voilà, cette réponse nous énerve profondément. OK, nous allons voir comment aborder ce problème. Je vous propose de laisser Maggie et Pam continuer. Une dernière petite chose. Et nous allons utiliser l'histoire habituelle. Hein. Et je suis donc le Père Noël et mon nom de domaine m'a été volé. Donc, je viens à la page de plainte et je me rends compte que ça n'a rien à voir avec moi. Je suis vieux, je dois distribuer des cadeaux aux petits-enfants du monde entier une fois par an. Et lorsque je lis les choses qui me disent « si vous avez un problème avec une accréditation d'un bureau d'enregistrement, vous devez résoudre cela avec le bureau d'enregistrement. » Et on vous donne une liste des bureaux d'enregistrement qui est très longue. Si vous ne pouvez pas résoudre cela, vous pouvez vous adresser aux agences du secteur privé, faire une plainte auprès des organismes de protection des consommateurs, etc., etc. Et vous voyez une grande liste de choses qui n'ont aucun sens pour vous. Donc, c'est très compliqué. Il faut modifier cela. Bien. Ma dernière question est, et je vous demanderai de prendre soin de deux choses. Si il y a une série de points, de questions, de choses qui n'ont pas été posées parce qu'il y a encore une série de choses, de questions qui n'ont pas été posées. Est-ce que vous vous engagez à répondre à ces questions le plus rapidement possible de façon à ce qu'on puisse diffuser vos réponses auprès de la communauté? Parce qu'il y a une longue liste, on ne peut pas donner la parole à tout le monde, mais on aimerait obtenir des réponses. Je pense que nous avons déjà eu cette discussion à Singapour et à Dakar. Vous m'envoyez cela deux jours avant. Le wiki a été ouvert pendant des semaines et je n'ai vu que trois questions. Donc, je pense que je demanderai au public, hein, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, c'est parce que je ne les ai pas répondues. Hein. Donc, nous sommes ouverts, hein, mais s'il vous plaît, envoyez-nous vos questions, mais pas des plaintes. Hein. Pour les plaintes, on est ouvert seulement quelques heures, mais nous voulons maintenant obtenir des faits de façon à pouvoir mesurer ce que nous faisons. Mettez-vous à notre place. Hein. J'aime ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais, mais s'il vous plaît, donnez-nous des données spécifiques sur lesquelles on puisse travailler. Je ne peux pas répondre à toutes les lettres que tout le monde va m'envoyer parce que notre système ne peut pas gérer cela, mais je dirais qu'au niveau des commentaires pour les nouveaux outils, j'en tiendrai compte. Comme ça, nous allons pouvoir être à jour. Donc, envoyez-moi vos questions. comme ça, nous allons pouvoir vous répondre. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je sais que c'est difficile de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas une question de plaire à tout le monde. C'est essayer seulement de répondre aux besoins d'ICANN. Merci. J'espère que nous allons pouvoir améliorer les choses. Mais de toute façon, nous appartenons à la même équipe. Hein. Merci et bonne chance pour toute la semaine. Khalil, Maggie, merci beaucoup. Et merci, Pam. Bien, donc la page wiki va rester ouverte, mais Evans nous suggère de rappeler aux gens qu'ils doivent... Et comment on fait, Evans? Alors, pour le moment, tout le monde a des questions. Je veux rafraîchir un petit peu vos idées. Vous avez vu les discussions, vous avez vu les diapos. Donc, vous avez ces questions en tête. Il nous faut trouver un moyen de recueillir ces questions, de les résumer et de pouvoir les présenter pour qu'elles soient répondues. Donc, plutôt que d'attendre et de dire « allez au wiki », etc., je vous propose maintenant, en temps réel, tant que vous pensez au problème, réfléchissez, écrivez les questions et envoyez-les à... si mon courrier de mail est la réponse, je suis d'accord, mais dites-moi quelque chose. Ah, Matt, c'est moi. Matt, il y a une page qui est en opération actuellement. Donc, si vous voulez, on peut utiliser cette page pour vos questions. Et pour la prochaine réunion, nous allons vous proposer un lien, tout simplement. Donc, pour reprendre ce que Matt a dit, si vous avez des questions à poser, tant que vous les avez en tête après cette discussion, nous vous demandons, si vous voulez faire une référence au diapo, mettez-le sur le wiki et je m'engage à regrouper ces questions et à les envoyer à la personne qui se chargera d'y répondre. Bien, nous sommes en retard. C'est dans notre habitude. Il nous faut passer au point suivant de notre ordre du jour. C'est la feuille de route des événements at large avec une petite discussion. Alors, Matt, est-ce que vous avez cela dans votre appareil pour les mettre sur l'écran? Bien, je me demande si ça sera retranscrit, mais bon. Bien, pendant que notre page se télécharge, voyons un petit peu la feuille de route qui a été donc élaborée pour voir un petit peu ce que nous allons organiser, comment nous allons organiser dans les deux années à venir et fournir donc une diffusion des besoins pour les finances d'ICANN, des besoins futurs, de nos besoins futurs, parce qu'il semble que chaque année, on se présente, on dit de quoi on a besoin, conférence, développement de comportement, assemblée générale, etc., les sommets au niveau de la région, comme celui du Mexique, et on nous dit « Ah, d'accord, mais on ne sait pas comment on va faire pour diffuser cela. » Et donc, il nous faut essayer de mettre en place donc une feuille de route pour contrôler tout cela. Je ne sais pas si tout le monde a vu cela, cette feuille de route. Je sais que les membres des finances et du sous-comité du budget l'ont vu. On voit ici les 4-5 prochaines années comme année, donc exercice, année fiscale, du mois d'août au mois d'août. De juillet à juillet, excusez-moi, Tijani, oui, merci, c'est de mois de juillet au mois de juillet. Donc, vous voyez ici les prévisions des fonds dont nous aurons besoin ou des fonds que nous allons réclamer pour le financement de notre Assemblée générale. Et vous voyez ici les différents cycles de notre région dans lesquels se feront les réunions de l'ICANN. On a accordé qu'il vaudrait mieux faire une Assemblée générale à l'endroit où se trouve, où se fera la réunion de l'ICANN, dans la région dans laquelle ça se fera. Donc, je vois ici que c'est tout petit. J'espère que vous avez le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien et voir cela plus en grand. Alors, on aura une assemblée générale. On a fait une demande pour l'Amérique du Nord. Il y a eu aussi une demande pour l'Europe. La feuille de route en elle-même est un document qui a été créé pour discuter le futur concernant les finances d'ICANN. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut discuter cela en détail ou s'il y a des points spécifiques qui vous intéressent. Je sais que Tijani a une série de suggestions sur cela. Et nous allons travailler sur un document Excel, la discussion que nous avons eue dans le passé concernant la possibilité d'organiser une assemblée générale et deux réunions dans chaque région pour que chaque région ait une assemblée générale avec des réunions présentielles tous les 5 ans et pour qu'il y ait un sommet tous les 7 ans. Et je pense que c'est quelque chose qui a été discuté il y a longtemps. Et c'était une façon donc de le présenter, hein, sur la feuille de route. Bon, maintenant, vous avez la parole. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour discuter ce point-là. Il y a moins de volontaires que pour la partie des plaintes, pardon. Gilles Tijani, je vois que vous voulez faire un commentaire. Tijani, allez-y. Merci, Olivier. La projection dont parle Olivier semble être vraiment faisable. Mais si on compte, on va voir en 7 ans une assemblée générale par région plus un sommet. Cela signifie 2 sommets. Hein, puisqu'une assemblée générale par région, c'est un sommet en termes de coûts. Donc, nous pourrions réfléchir à la possibilité d'un sommet périodique organisé tous les 3 ou 4 ans. Ce serait moins compliqué à mettre en œuvre. Mais comme Olivier l'a dit, peut-être que ce type de proposition ne sera pas accepté parce que on va considérer cela comme quelque chose de très coûteux, de très cher. Donc, si on fait seulement une assemblée générale par an, ce sera moins cher qu'un sommet tous les 3 ou 4 ans. Donc, ce serait une autre façon de voir les choses. Mais je pense que les deux sont faisables, mais le plus simple serait de travailler avec des sommets périodiques, hein, tous les, mettons, 4 ans. Merci, Tijani. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? Sergio? Merci, Olivier. Sergio Salinas Porto. Je réfléchissais un petit peu à ce que disait Tijani. Il me semble que c'est important de pouvoir faire une proposition durable, soutenable dans le temps et dans la région, et que cette idée de faire quelque chose tous les 3 ans, c'est une bonne idée, parce que sinon on va passer 7 ans, hein, sans pouvoir participer, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc dans 7 ans, je peux être encore là, mais peut-être que je serai aussi remplacée, hein. Donc moi j'aimerais bien vous voir un peu plus souvent, en fait, hein. Donc, le fait concret, hein, je pense que c'est important de se voir tous les 3 ans, d'organiser un sommet tous les 3 ans. Et je pense que ce serait bien de pouvoir proposer quelque chose à ICANN que l'on pourra ensuite respecter. Hein, parce que sinon, ça va être une espèce de menace de leur proposer quelque chose qu'on ne pourra pas mettre en œuvre. Et finalement, on va se transformer en un problème pour eux. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait voir quelque chose qui puisse être viable, un sommet tous les 3 ans, par exemple, et qui nous permettrait de nous voir tous les 3 ans. Hein. Donc, pouvoir réunir tous les râleaux, avoir une synergie, c'est important, hein, pour notre travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Sergio. Alain? Si l'on regarde dans l'histoire, hein, certains d'entre nous ne le font pas, mais le concept donc que l'on avait proposé il y a quelques années. Pardon. 5 assemblées en 3 ans et pendant les 3 années suivantes, pas d'assemblée, mais un sommet quelque part pendant cette période. Peut-être on pourrait le choisir pour minimiser les prix des déplacements, hein? Parce que 4/5 des personnes viennent d'une autre région, hein? C'était un bon plan, sauf que jusqu'à cette année, ou en tout cas jusqu'à maintenant, on n'a pas pu obtenir de l'argent pour les assemblées régionales. C'était difficile donc de faire des plans à long terme. Nous ne sommes pas encore dans une position pour laquelle nous voyons un résultat pour ce budget, hein, et nous pensons que nous ne pourrons pas avoir 5 assemblées régionales en 3 ans. Et actuellement, je pense que le mieux, ce serait de faire 5 assemblées régionales en 5 ans. Hein, ça serait déjà suffisant. Je pense qu'il nous faut établir les financements annuels réguliers à un niveau raisonnable, hein, qui serait une offre, hein, de raisonnable. Et lorsqu'on est dans une position dans laquelle ICANN nous propose donc ces fonds-là, à ce moment-là, organiser les sommets. Sinon, si l'on essaye d'organiser un sommet maintenant, je pense que nous allons devoir mettre tous nos œufs dans le même panier et avoir ces improbations. Il nous faut faire attention parce que ensuite nous ne pourrons peut-être pas le respecter. Merci, Alan. Et ça, il faut qu'il y ait un changement culturel, hein, ça c'est sûr. Salam. Salani. Salonietta, à propos de ces planifications futures et ce type de choses, je voudrais faire une suggestion en termes de sommet de RALO. Et en termes de sommet de RALO, oui, est-ce qu'il serait possible, hein, pour les planifications futures de coordonner avec ce qui est l'IGF régional ou la réunion des OC régionales pour pouvoir et mieux organiser les coûts de voyage, que tout le monde se réunit pour une autre raison et en profiter. Hein. Ça sera un bénéfice pour tout le monde. Et c'est aussi un travail de sensibilisation du point de vue de Outlarge, hein, que l'on pourrait faire. Merci, Sada. C'est une bonne idée, c'est une bonne suggestion. Cette suggestion a déjà été faite. Si on veut avoir moins de chances d'organiser des assemblées, Je pense que, en tout cas, si l'on veut que ce type d'assemblée se fasse, il faut prendre ce type de décision, hein. Et parce que je pense qu'il y a des raisons qui sont tout à fait inexplicables, mais qui font que l'on n'obtient jamais ces fonds, ces financements. Sandra Hofrichter. Je vois que il y a, en Europe, nous parvenons à nous réunir pour l'Assemblée générale avec le dialogue européen sur la gouvernance. Et ça pourrait être, comme Salah l'a dit, quelque chose qui permet d'économiser des coûts. Et c'est un outil de sensibilisation très utile, je pense aussi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Cela pourrait être quelque chose à développer, hein, et on devrait peut-être essayer d'avancer, hein, dans ce sens et de surmonter les difficultés. Hein. Merci, Sandra, Wolf, et puis Salah de nouveau. Un commentaire direct. Peut-être que la plupart d'entre vous constatent que je n'aime pas contredire Sandra, mais dans ce cas, je dois le faire parce qu'il y a deux aspects ici qui sont en question. Eurotic, Sandra l'a dit, est une bonne occasion de sensibilisation pour le RALO, et cela a renforcé le RALO et la crédibilité, la réputation de le RALO de manière considérable, parce que le RALO était aussi un membre qui finançait, hein, l'Eurotic. Mais
dit, c'est peut-être un besoin d'utiliser cette EuroDIC comme occasion. Selon nos statuts, nous sommes obligés d'organiser une assemblée générale par an. Et nous n'avons pas reçu de soutien d'ICANN en 2009. Et donc, nous avons utilisé l'IGF en Europe en 2010 pour nous réunir. L'année dernière, nous avons utilisé l'EuroDIC à Belgrade. Et cette année, nous allons utiliser l'EuroDIC de Stockholm pour notre Assemblée générale. Mais seulement une petite partie de nos membres peuvent venir. Donc, ce n'est pas vraiment une réunion présentielle. Hein. Et je dois dire que, et je dois insister, et sur ce point, ICANN est un petit peu... ne respecte pas, n'assume pas ses responsabilités. Et parce que nous n'avons pas réussi à convaincre Microsoft ou une autre marque hein, importante mondiale de nous soutenir, hein, de nous donner son soutien. Donc, c'est une question volontaire pour beaucoup d'entre nous, hein, pour les ALS européennes qui pour venir. Hein. Et je pense que l'année prochaine, en tout cas, en 2013, nous aurons peut-être une chance d'organiser notre première assemblée générale en présentiel, hein, 4 ans après celle de Mexico. Et je peux vous dire que les motivations parmi nos membres hein, diminuent considérablement parce qu'il y a beaucoup de frustration hein, au sein de notre communauté. Et c'est une chose est d'avoir des nouveaux membres, mais autre chose pour le RALO, hein, c'est de garder ces vieux membres, surtout ces vieux membres actifs, de les conserver, ces membres. Ça, c'est un autre problème que nous avons au niveau de RALO. Merci, Wolf. Nous sommes tous d'accord avec toi. Mais... Merci. C'est bon de le répéter de toute façon. Salanieta, puis Tijani, puis Fatima. Salanieta. Salanieta Tamaniko. Nous avons eu cette discussion dans notre apéralo et nous reconnaissons que dans ce budget en particulier, et il est impossible, mais dans le futur, pour la préparation future, ce type de choses, hein, je pense que nous avons discuté cela au niveau de notre RALO et nous voulons héberger une IGF spéciale dans notre région. Et je suis heureuse de vous dire que nous avons de très bons soutiens de différents domaines dans le secteur privé et en termes... Je voudrais dans ce domaine remercier Marine qui est ici dans le fond de la salle, qui est la présidente de PICASOC et qui est venue donc participer à la réunion d'ICANN. Et donc, dans le Pacifique, nous organisons une réunion et ça a été lancé par le CCNSO, par certains membres du CCNSO. Et dans notre région, nous soutenons le renforcement de capacités et cela aura lieu au mois de mai, d'ailleurs. Et la communauté at large avec les différents RALO de la région vont se réunir et nous sommes heureux hein, dans la région du Pacifique de vous dire qu'actuellement, il y a une ALS hein, qui fonctionne et nous espérons pouvoir développer, mettre en place un renforcement de compétences. Et voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, Salah. Tijani, vous avez la parole. Merci, Tijani. Les inconvénients de cette assemblée générale et de l'organiser à l'extérieur des réunions d'ICANN, outre ceux qui ont les inconvénients énumérés par Wolf et par d'autres, il y a le fait aussi que nous n'utilisons pas vraiment les locaux des réunions d'ICANN et les services comme l'interprétation et autres. Et d'autres choses, un autre point aussi, c'est que nous devons penser au fait que c'est dommage que lorsque nous faisons une assemblée générale, les gens n'ont pas la possibilité de participer à la réunion d'ICANN en même temps. C'est dommage. Merci. Merci, Tijani. Maintenant, Fatimata. Merci, Olivier. Fatima, je vais parler en espagnol. Je vais être bref parce que je pense que ce que je voulais dire a déjà été dit. L'année dernière, lorsqu'on organisait l'IGF régional d'Amérique latine aux Caraïbes, on a demandé des fonds à l'ICANN pour organiser un événement de sensibilisation avec le pré-IGF et on n'a pas obtenu de fonds des membres du LACRALO. Donc, cette année, nous avons planifié de tenir notre Assemblée générale de l'ACRALO avec l'IGF régional et nous ne savions pas encore où est-ce qu'il aurait lieu. Et je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles on a pris cette décision, mais je sais qu'il y a une certaine résistance. Les gens qui organisent les IGF régionaux ne veulent pas se mêler aux personnes qui appartiennent à l'ICANN. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce que tous nous appartenons plus ou moins au même secteur. On pourrait essayer d'articuler cela de façon à ce que l'on obtienne certains résultats de ces réunions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Fatima. Ça pourrait être aussi un point à suivre que l'ex-com pourrait poser, un point à poser vendredi après-midi après la réunion. C'est une question et pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Et pourtant, nous avons posé cette question à différentes personnes de l'ICANN. C'est le moment de la poser à nouveau. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire un travail de sensibilisation comme cela devrait être fait? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc le point à suivre serait de demander aux personnes qui vont venir nous voir vendredi après-midi, à tous ceux qui vont venir nous voir vendredi après-midi, pourquoi est-ce que le travail de sensibilisation et les financements pour ce faire ne sont pas possibles dans des endroits à l'extérieur d'ICANN? Voilà, c'est une question que vous devriez, s'il vous plaît, arranger un petit peu, la rédiger un petit peu pour qu'elle ait un peu plus de sens, mais c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec ce point à suivre. Est-ce qu'il n'est pas préférable de faire une assemblée générale à l'extérieur des réunions d'ICANN? Tijani, ce n'est pas seulement lié aux assemblées générales. C'est lié au financement de tout ce qui a lieu à l'extérieur du monde d'ICANN que l'on pourrait utiliser pour le financement de la sensibilisation. Je crois que vous avez demandé déjà des fonds pour cela parce que sinon vous devez le payer de votre poche. Bien, maintenant, c'est clair et je pense qu'on peut passer au point suivant de notre ordre du jour. Nous sommes un petit peu en retard, seulement 15 minutes. Carlton va nous donner des commentaires concernant le processus WHOIS. Je n'ai pas le nom correct. Les perspectives d'At-Large sur WHOIS.
Merci, Monsieur le Président. Vous vous souvenez qu'on a parlé ce matin et on vous a demandé de vous focaliser sur la déclaration préliminaire sur le rapport de l'équipe de WHOIS, de révision de WHOIS. On a déjà suivi certains aspects. On a le problème du dataset de WHOIS, pour les données de WHOIS, et quels sont les morceaux d'information que l'on requiert des bureaux d'enregistrement pour qu'ils se connectent avec les plaintes de WHOIS. Et en deuxième lieu, nous avons le problème d'accès aux données. Et en troisième lieu, bien sûr, toute cette affaire d'accès et de conformité des données, c'est-à-dire pour la confidentialité et les problèmes de proxy. J'ai déjà suivi ceci depuis 2008, mais mon collègue Alan Greenberg a observé ceci depuis plus longtemps que n'importe qui d'entre nous. Et Alan est la liaison pour la GNSO. La GNSO se considère un participant principal dans le développement des politiques au sein de l'ICANN. Et en tant que liaison pour la GNSO, il a observé et analysé ces problèmes, ce qui souvent fait partie de notre perspective. Je vais demander à Alan de vous adresser et de traiter le problème de la perspective à large par rapport aux données WHOIS, en particulier pour ce qui est le côté de la GNSO. Alan, tu peux prendre la parole. Ok, merci. Tu viens de dire que la GNSO se considère le principal participant. En fait, la GNSO est le participant principal pour l'établissement des politiques des GTLD. Donc, ce n'est pas un point à discuter, mais en fait, bien que certaines personnes ne pensent pas ceci au sein du Conseil, ce n'est pas la seule chose que la GNSO peut faire, mais en fait, il domine tout cet aspect parce qu'en fait, pour établir des politiques, on a certaines implications face à si le conseil d'administration peut ou ne peut pas approuver un point. Et donc, la GNSO, les problèmes de politique des GTLD portent sur ceci. Maintenant, quant aux GTLD, on a souvent vu qu'on ne pouvait pas approuver ceci par notre culture même. Et ceci n'a pas prospéré. On a vu d'autres efforts qui ont été faits. Certains d'entre eux sont continués parce que certains participants de ce processus sentaient qu'ils ne pouvaient pas finir avec ce problème sans leur donner les données. Donc, on a plusieurs études qui sont en train d'être faites. Le GAC a déjà fait une demande de faire certaines études qui ont été ajoutées à la liste. La GNSO aussi participe de certaines études ou alors qu'il commande. Ce n'est pas une conséquence. L'équipe de vue de WHOIS a aussi mené son propre étude et certains des problèmes que l'on voit seront traités lors de la réunion avec le conseil d'administration et la GNSO. Je ne pense pas qu'on ait fini avec ceci. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, l'affirmation des engagements dit qu'il devrait y avoir des équipes de révision et que le conseil d'administration devra mettre en place les recommandations dans le délai d'un an. Donc, ceci traite, je pense, sur la transparence, parce que ceci est le domaine du conseil d'administration. Dans nos statuts, nous voyons que le conseil d'administration ne peut pas prendre une action sur certains de ces problèmes de façon unilatérale. Et donc, on ne sait pas quelle sera la façon dont les résultats seront mis en place et il faudra réfléchir à ceci. Je ne crois pas que les ALC soient écrites en argot pour qu'on le comprenne, pour qu'on sache vraiment comment se font ces processus. Mais il y a beaucoup de travaux parallèles qui sont en train d'être faits. Je voudrais croire que d'ici un an, tout ceci aura abouti à un beau patron qui sera bon. Je ne suis pas sûre si moi ou personne d'autre sait comment on va y parvenir. Je sais aussi que nous ne sommes pas nombreux à pouvoir supporter l'idée de travailler dessus le reste de nos vies. Et donc, on va devoir trouver la façon de résoudre ceci. Et on n'a pas assez d'influence externe. Et le fait qu'il y ait eu une équipe de révision de WHOIS incluse dans le ALC nous donne une idée de la conviction du monde externe du fait qu'ICANN survivra à tout ceci et fera semblant ou en fait sera vraiment au contrôle de tout ceci. Je ne sais pas si je pourrais dire quelque chose de plus clair que ceci. Cette situation n'est pas claire du tout en ce moment. J'espère que ceci améliorera. On est en train de travailler beaucoup. Je pense que j'ai envoyé aux listes à large et ELAC une liste de projets. Je pense que vous connaissez déjà l'équipe de révision de WHOIS. Et vous devez tout simplement vous rendre sur le site ICANN pour voir les discussions de conformité et voir que la conformité ou la précision de WHOIS ne va pas être ignorée. On ne sait pas si on va la résoudre efficacement, mais en tout cas, on ne va pas l'ignorer. Est-ce que ceci est le compte-rendu que tu voulais? Je ne sais pas si c'est très clair. Et si vous êtes confondu, ça veut dire que vous commencez à comprendre. J'allais dire que c'est exactement comme ça, parce que c'est confus partout. Mais en fait, on peut apporter des informations d'ici. Donc, l'équipe WHOIS propose qu'on ait une politique compréhensive sur WHOIS. Et lorsqu'ils disent politique, ceci veut dire que ça va traverser la GNSO. Ça va passer par la GNSO. Et ça deviendra une politique dans l'autre bout. Et on a beaucoup de problèmes qui pourraient être traités dans le contrat des REAA en soi-même. Et ceci requerra des processus de développement de politique qu'on devra développer. On dit ceci parce que la complexité des problèmes et en fait la décomposition des politiques sont une situation contractuelle. Ceci est toujours valable et on n'a pas de consensus général. Et même ces deux facteurs pourraient être le début et la fin. Donc, en fait, pour définir la perspective à large, je pense qu'on devrait, en tant que membre d'à large, sur lesquels on est d'accord à présent, et donc je rendrai la parole à Alan. Oui, j'ai une question pour Mike. Les PDP pour les UDRP actuels. Quand est-ce qu'on a commencé à travailler avec ceci? Si je ne me trompe, c'était aux alentours de 2004-2005. Mais en fait, on a créé de nouveaux PDP et on les crée toujours, n'est-ce pas? Donc, je voudrais savoir ceci. Oh, les IRTP. Je me trompais, c'était pas les UDRP. Oui, oui, j'ai bien compris. Je pense qu'on a commencé à travailler sur ceci en 2006-2007. Les IRTP, je vous rappelle, c'est les politiques de transfert des noms de domaine entre les bureaux d'enregistrement. Ici, ce que je veux dire est que ceci prend beaucoup de temps. Et pour ces politiques de transfert, IRTP, ça a pris beaucoup de sagesse. Et en fait, j'ai pas fait partie de la prise de décision, mais on a dû séparer ceci et le décomposer en morceaux pour voir comment on travaillait dessus. J'ai été présent dans une discussion sur un autre sujet de politique et Bruce Tompkins, qui était le président de la GNSO avant de passer au conseil d'administration, nous a dit qu'une politique peut être simple ou détaillée et spécifique. Et donc, on nous a dit qu'il y a le droit de transférer des noms de domaine. On a établi ceci et voilà, c'est la politique. Et donc, on a établi ceci soit simplement ou alors avec beaucoup de détails très spécifiquement. Et ceci complique tout. En fait, je voudrais savoir si on va parvenir à avoir une politique simple et puis lui ajouter des spécificités. J'espère que ce ne sera pas en un seul document parce que ce sera très compliqué à comprendre. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment on va y parvenir sinon, mais pour les IRTP, je pense qu'il s'agira d'un ensemble de choses et ceci prend beaucoup d'efforts
pour essayer de résoudre les problèmes que nous voyons. Et ceci ne va pas disparaître du jour à la nuit, mais on devra établir une feuille de route pour savoir comment y parvenir et pour identifier le processus. Merci. Je voudrais dire que ceci est un bon commentaire qui ajoute à ce que je voulais dire, parce que lorsqu'on parle du point de vue à l'AC pour la perspective de développement de politique, la déclaration de politique simple que je pense nous devrions soutenir est de dire que le propos qui est toujours valable devrait être inclus ici, et voilà la déclaration. Si vous voyez l'objectif ou le but que nous avions, c'était tout simplement ça, que les bureaux d'enregistrement devaient réunir certaines informations des bureaux d'enregistrement. Et une fois que cette information était déjà réunie, elle devrait être conservée dans un endroit spécifique et qu'elle devait être partagée de façon libre, ouverte. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que cette déclaration disait. Si vous voulez donc articuler la politique et pour voir comment faisait ceci, comment leur donner accès, si commencer à travailler sur une politique simple et puis, le long du temps, vous développez les détails qui se connectent à ceci. Je pense que ce serait raisonnable et la façon rationnelle, en fait, de traiter ceci. Et donc, la LAC voudrait soutenir ceci en termes de politique. Fatima, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, merci, Carlton. J'ai une question. Je pense qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. L'équipe de révision de WIS, lorsqu'ils ont fait leur travail, ils ont vu que partout dans les documents qu'ils avaient révisés, ils n'avaient pas trouvé de politique par rapport aux données WIS de la part d'ICANN. Ce que je ne comprends pas est la position d'ATLARGE par rapport à ceci, si on a déjà établi une position ou alors si on n'en a pas. Et si vous recommandez un processus de développement de politique par rapport à WIS, ou alors comment on devrait approcher ceci et quelle est donc la position d'ATLARGE. Merci. Bon, le rapport préliminaire est d'accord avec la perspective du team de l'équipe de révision et on devrait définir les politiques ICANN par rapport à WIS. Mais on va un peu au-delà de ceci et je dis qu'on a une approche pour définir cette politique qui recommande de commencer avec une politique toute simple et puis avancer pas à pas à partir de ceci. Donc, on aura une déclaration de politique simple qui dit que WIS est nécessaire. Voilà, point. Et puis, on commencera à travailler dessus. Donc, Alan, je vois que tu veux dire quelque chose. Oui, je pense qu'on devrait être tranquille, qu'on ne devrait pas se risquer à faire de déclarations et, en fait, dire que on n'a pas une seule politique facile à trouver dans un seul endroit. On a plein de politiques, en fait. On a plein de contrats, d'accords, qui se convertiront puis en politique parce qu'ils devront être définis d'abord comme plusieurs contrats et qu'en fait, on a plusieurs politiques de consensus déjà écrites, mais ce n'est pas unifié dans un seul endroit où on peut aller voir pour le trouver comme politique de WIS. Donc, c'est une déclaration un peu confuse. Et on a beaucoup à lire à ce sujet. Et ce n'est pas facile à le trouver. On ne sait pas où c'est emplacé. Et donc, on ne doute pas que ce soit difficile. Mais en fait, je pense qu'une partie de ceci sera de réunir tous ces documents et de les stocker dans un serveur unique pour voir ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Donc, on ne devrait pas être trop enthousiaste ou alors penser qu'on n'a pas de politique et penser que le monde en finit là. Oui, je pense qu'en fait, ce qui veut dire qu'on n'a pas une perspective que l'on défend ou avec laquelle on avance. Je pense que c'est ça ce qu'ils veulent dire. On est content de voir la déclaration et voir qu'il s'agit d'un contrat. puisqu'il s'agit d'obligations de contrat en ce moment, et de voir que ceci est inclus dans ce que la communauté entière pense qu'on devrait faire et comment ça devrait se passer. Les contrats des RAA incluent les politiques OIS en ce moment. Et on verra donc la conformité à partir de ceci. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire que, nécessairement que nous-mêmes, nous croyons que la politique OIS serait comme ça. Mais en fait, on devrait réunir toute cette position de consensus de politique de l'ICANN pour voir que ceci soit créé. Je vais répondre à Holly en premier. Holly dit, oui, je pense qu'on devrait faire attention à ce que l'on dit pour la GNSO et pour savoir quel est leur rôle. On devrait être prudent parce qu'en fait, on n'a pas de politique ICANN pour dire quelle est notre position. Et même si ICANN a des obligations qui sont incluses dans les contrats, ce serait bien de penser que la CCNSO considère ceci parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un problème beaucoup plus profond. Et je pense qu'il s'agit ici du problème de conformité. C'est quoi la conformité et comment devrait-on la faire respecter, la faire être respectée? Oui, par rapport à ce que Holly dit, je pense que lorsqu'on parle de WIS, on parle de WIS par rapport au GTLD. Et donc, en fait, jusqu'où l'ICANN a la capacité de la faire respecter ou de la féliciter. Je pense qu'on a d'autres questions ici. Je pense que ce serait utile de penser où nous pensons que nous en sommes. On a plein de points à suivre par rapport au WIS qui sont inclus dans les contrats. Et on a d'autres points par rapport au WIS qui sont sous-entendus. On ne les a jamais mis par écrit. Peut-être on a traité ceci il y a une ou deux réunions pour savoir où nous en étions et ce qu'on devrait faire, et on a ignoré ceci. Je ne sais plus où j'en étais. Et en fait, je pense que notre défi est de réunir tout ceci d'une façon telle que ça soit censé, et on devra unifier tout ce qu'on a, on devra remplir les espaces blancs et puis suivre les règles qu'on a écrites. Dernièrement, souvenez-vous que lorsqu'on écrit ou on rédige des règles, on a des problèmes qui compètent ici parce qu'on a la privacité contre l'accès à l'information parce que ceci représente un conflit. Donc, on va devoir faire des concessions pour certains cas. Et parfois, on devrait établir des règles claires parce qu'on a des sujets qui posent des conflits et on ne peut pas les résoudre. Donc, toutes les politiques représentent donc des concessions qu'on devra faire. Je voudrais vous rappeler encore une fois que la déclaration préliminaire est disponible. Et si vous voyez que les problèmes ont été réunis dans cette déclaration préliminaire, vous verrez que la recommandation qui manquait et que je pensais qu'on devrait ajouter, vous allez voir, on essaiera de l'ajouter pour que vous voyez de quoi on parle. On devra donc finir avec la rédaction de la déclaration cette semaine. Mais donc, si vous avez l'occasion de lire la déclaration et vous pensez à ce qu'on pourrait ajouter, pensez à ce qu'elle est publiée et que vous pouvez la lire, la version préliminaire, avant de la faire passer et qu'elle sorte de AILAC. Alain Vassy, tu peux prendre la parole encore une fois avant que le président reprenne la parole. Bien, je vais reprendre ce que j'ai dit auparavant. Il ne s'agit pas seulement des lacs. Ceci porte sur tout ce que l'ICANN fait. Et en fait, même s'ils n'ont pas l'autorité de traiter les CCTL par elle-même. Peut-être elle a une obligation qui est incluse dans les standards actuels. Et peut-être on pourrait faire de notre mieux pour pouvoir assurer que ceci soit fait ainsi. Carlton, si je ne me trompe, ceci n'est pas inclus entre les CCTL, c'est simplement les domaines de haut niveau générique. Est-ce que ceci examine le problème majeur? Est-ce qu'on a un but majeur? Ou alors, est-ce que ça a un sens de publier ceci? Et en même temps, je veux être sûr qu'on n'oublie pas l'obligation de la LAC de contrôler tout l'ICANN et non pas seulement ses aspects, seulement le WHIS. Oui, je pense qu'il est raisonnable pour nous d'essayer de parvenir au but majeur et la déclaration n'est simplement qu'une réponse de l'équipe de rapport et on pourrait donc ajouter un paragraphe à la déclaration pour mentionner les buts auxquels on aspire. Ceci pourrait être simplement des domaines de haut niveau, mais en fait, ça devrait être une politique ICANN et on devrait fournir des encouragements pour que les CCTLD considèrent les possibilités de leur propre politique et leur propre considération. Je ne pense pas qu'on puisse dire beaucoup d'autres à ce point, mais je crois que dans l'avenir, on devrait savoir tout ceci, on devrait considérer ceci pour l'avenir. Oui, merci. J'ai déjà mentionné ceci dans la déclaration. On l'a discuté. Bien, donc on devra repasser la parole à la présidence. Monsieur le Président, vous avez encore une fois la parole. Merci, Carlton, d'avoir dirigé cette partie de la séance d'aujourd'hui. Je suis sûre que la déclaration sera finie et qu'on pourra en voter pour la LAC vers la fin de la réunion pour notre séance de conclusion, de clôture. C'est vrai? Oui, plus ou moins. D'accord. Donc, merci beaucoup. En fait, nous n'avons que 7 minutes de retard. On va maintenant fermer la séance et on va reprendre en 30 minutes à 4h, à 16h. On a juste un peu plus de 20 minutes. Essayez de ne pas être en retard. On a beaucoup à discuter encore et Kurt va être présent et on ne veut pas le faire attendre, bien sûr. Donc, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc, merci.